d'abord vaincu dans le ciel. Vous connaissez cela. Parfois, on voit des petits pays tenir face à des grands pays parce que l'ange du grand pays a été battu là-haut. Alors, je me rappelle un exemple. Pendant un an et demi, je crois, c'était au temps de la dernière guerre mondiale, la Finlande, un tout petit pays, a tenu tête à la Russie d'une manière dont qu'on n'a encore jamais vraiment raconté. Moi, j'ai vu ça dans les journaux de l'époque. C'était inouï. Tout se passe comme si ce tout petit pays, la Finlande, avait un mérite céleste plus grand que cet énorme empire, la Russie. Mais je voudrais peut-être vous donner simplement un exemple. La raison pour laquelle les Français ont perdu la guerre d'Algérie, alors qu'ils l'avaient gagnée sur le terrain. Mais ils l'ont perdu quand même parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir raison. Vous avez compris ce que je dis ? C'est-à-dire s'il y a un effondrement de la conscience du bon droit, alors, et ça veut dire l'ange est vaincu là-haut, alors sur le terrain la guerre est perdue, mais même si elle est gagnée. Je pense que c'est un exemple qui restera dans l'histoire. Enfin, objectivement, on pourrait plaider le dossier inverse, que les Français n'avaient pas raison de perdre la guerre d'Algérie, c'est notre problème. Mais finalement, pourquoi l'ont-ils perdu? C'est parce que leur tsar ne voulait pas la gagner. Et finalement, leur tsar s'est incarné chez De Gaulle. Il était leur Goël, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Il est devenu leur Goal. Bien. Alors, Ken.
Je pense que c'est vrai, de voir que d'accord que après le paracha, Yaakov retrouve son père, de voir que le président Herzog et Emmanuel.
Non, rien à voir. Jacob ne retourne pas chez son frère. Jacob retourne chez lui. Mais il sait très bien que son frère va se mettre en chemin pour l'empêcher. C'est tout à fait autre chose. Vous comprenez là, le pays où Jacob revient, le pays d'Israël, Ésaü n'est pas chez lui. Ésaü est chez lui à Séir. Il est chez lui à Édom. Hein? Mais il prétend que cette terre, c'est sa terre sainte. Alors, il se met en chemin. Moi, l'exemple que je vous donnerai de typologie, c'est ce que nous avons vécu en 48, avec la Ligue arabe ici, qui avait à la tête les Britanniques. Hein? Il y avait une alliance entre Esav et Ishmael. C'est-à-dire, les Juifs reviennent chez eux, Jacob revient chez lui au bout de 2000 ans, et après ce qui s'est passé dans l'hémisphère nord du monde civilisé. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il trouve en chemin? Son frère, soi-disant, qui l'attend avec la légion jordanienne. On va l'avoir dans un verset tout de suite là. Et c'est exactement ça.
D'où est-ce qu'on apprend que Édom, c'est Rome et la chrétienté?
Oui.
Et les Britanniques?
Bon, les Britanniques, c'est une des dimensions de Rome. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait un empereur romain qui s'appelait Britannicus, ou je ne sais pas. Bon. Enfin, j'ai oublié ces choses-là, mais à deux niveaux, très rapidement, parce que c'est pas le sujet central, c'était la semaine dernière, on avait étudié autre chose, c'est que l'identité chrétienne est née, la conscience chrétienne est née, lorsqu'il y a eu une alliance entre Rome et les Iduméens qui occupaient la Judée. C'était au temps de la fin du deuxième temple, au temps de Hérode, par exemple. Hérode était le roi de Judée. Il avait fait une alliance avec Rome, il y avait l'armée romaine ici, qui était les alliés des Iduméens qui occupaient le pays de la Judée. C'est dans ce contexte-là que la conscience chrétienne est née, dans une alliance d'identité entre Rome et Édom. C'est pourquoi la tradition va diagnostiquer dans la civilisation romaine le potentiel de civilisation de Édom et Ésaü, le frère jumeau de Jacques, dont la peuplade était l'Iduméen. Ça, c'est au niveau historique, c'est indéniable. Okay. L'identité. Ce Romain qui se prend pour Israël, c'est né au temps où les Iduméens occupaient la Judée sous la protection des Romains. C'est clair? Bon. Or, deuxièmement, au point de vue typologique, même théologique, qui est ce frère de Jacob qui n'est pas Jacob et qui se prétend être Israël? Dans l'histoire, c'est l'Église chrétienne. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, c'est bien dans cette manière d'être homme qui s'appelle l'Empire romain, d'abord la première phase de la Rome païenne, et ensuite la deuxième phase de la Rome chrétienne, et depuis tous les satellites de Rome, j'ai l'habitude de les définir par les sociétés de droit romain. C'est la civilisation occidentale dont la religion est la religion chrétienne. Et que les occidentaux soient chrétiens pratiquants ou pas pratiquants, croyants ou pas croyants, ils sont cette civilisation-là. Je veux dire, les marxistes de Russie sont Rome autant que les fanatiques catholiques de Varsovie. C'est tout ça fait Rome, dans toutes ses dimensions, à elle. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, ils ont peut-être inconsciemment repris le même emblème déjà eu, c'est-à-dire la couleur rouge. Bon, il y a une science spéciale qui s'occupe de ces problèmes. Je ne suis pas tellement compétent, mais je sais que cette science existe. Et il y a une science des symboles de l'imaginaire individuel et de l'imaginaire collectif des sociétés, la hiérarchie. En particulier, et c'est très frappant de voir que finalement, les conduites se réclament des mêmes symboles. Les mêmes conduites se réclament des mêmes symboles. Ah oui, vous avez par exemple dans le commentaire de Bravanel sur le livre d'Isaïe, dans le commentaire de Bravanel, il cite tout et déjà autant de la Gemara, la Mishnah même, Edom est diagnostiqué comme étant Rome. C'est-à-dire, il y a une projection de l'identité Edom sur l'identité Rome. Et effectivement, nous voyons dans l'histoire, c'est comme ça que ça s'est concrétisé. Bien. Et chaque fois que je discute avec des chrétiens de ces problèmes, ils sont complètement pris d'angoisse. C'est-à-dire de voir qu'effectivement, leur situation dans le récit biblique, ce n'est pas du tout celle d'Israël, c'est celle des Ahus. Vous avez compris le problème. Ensuite, ils oublient, parce qu'il y a un phénomène, je crois, de refoulement inévitable, c'est une sorte de soupape de sûreté de la conscience. Ils oublient ce qu'ils ont entrevu parce que c'est trop vertigineux. Parce que si jamais c'est vrai, ils sont perdus. Alors, comme toutes les façons, ils sont perdus, c'est pas grave. En tout cas, on revient au problème. Et, vous voyez, donc, déjà dès le premier verset, nous avons ce double registre. Vaïtsa, Vota, Vlemo. Vous allez le suivre un peu plus en détail ensuite par vous-même, et je vais le lire dans les grandes lignes. Et il leur prescrit en disant à ses envoyés, on va apprendre notre part, tout à l'heure je reviens, que ce sont vraiment des anges, des malachis, mais pas seulement des envoyés, je voudrais pas faire madame, on va voir d'où viennent ces anges-là. Et Vaïsa Votablemo, il est prescrit en disant, Kotomorun l'a donné l'Esa. Ainsi vous direz à mon Seigneur, à Esaü. Vous voyez là ça s'hypertrophie. Alors c'est là qu'on commence à mieux comprendre le double dialogue, enfin, le double discours. Ainsi vous direz, l'Adoni, c'est en haut, l'Esa, c'est en bas. Koamar Abdecha Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. Ton serviteur, c'est en haut. Jacob, c'est en bas. In Laban Garti. J'ai séjourné chez Laban, là-bas. Vaecha Arata. Et j'ai tardé jusqu'après. Bon, je dis que jusque-là, parce que vous arrivez au sujet lui-même. Mais voyez donc ce qui se passe. Il y a une sorte de double stratégie, si vous voulez. Jacob doit lutter simultanément contre Esaü sur terre. Et aussi contre l'ange tutélaire d'Esaü dans le ciel. Et tant que l'ange tutélaire d'Esaü dans le ciel n'est pas vaincu, alors Esaü sur terre n'est pas vaincu. Et Jacob n'a pas peur d'Esaü sur terre. Ce dont il a peur, c'est d'Esaü au ciel. Je ne sais pas si les mots que j'emploie un peu sous forme d'image, c'est un peu plus que des images, sont suffisamment clairs. Cette espèce de doute secret, peut-être il a raison. C'est ça qui donne la force de l'ange là-haut. Est-ce que c'est clair du génie là? C'est-à-dire ce mot français génie exprime très bien ce que veut dire l'hébreu sar. Il y a le sens du mot génie dans la magie, un génie, un djinn, en arabe. Et puis le génie d'une nation. Eh bien, le génie d'une nation, ça existe. Et le génie d'une nation, c'est lui qui est en jeu dans les conflits d'identité. Et effectivement. Il n'y a pas de doute que l'histoire juive témoigne de cela, qu'il y a dans la descendance de Jacob, j'ose pas dire cette espèce de doute, mais enfin, cette fascination. Peut-être qu'il a raison. Je veux dire, jusqu'où ça peut aller. Ça, je l'ai étudié, c'est un phénomène que j'ai étudié dans les sociétés juives européennes, et qui n'était pas du tout comme ça, qui n'existait pas comme ça du tout dans les sociétés juives du monde de l'islam. Parce que l'environnement hostile pour les juifs dans le monde de l'islam, c'est l'islam, c'est-à-dire c'est le musulman. Et le musulman ne dispute pas à Israël son identité d'Israël, il lui dispute sa terre. Mais Ishmaël ne se prétend pas être Israël, je préviens. Tandis que Esaü, lui, il se prétend être Israël, il lui dispute son identité. Ce qui fait que les Juifs qui ont vécu dans l'environnement chrétien, les Ashkenazim en 2000 ans, n'ont pas eu du tout eu la même problématique que les Sfaradines qui vivaient dans l'environnement musulman. Il n'y a pas, dans la conscience sfarade, il n'y a pas de doute d'identité. Tandis que dans la conscience ashkénaze, il y a eu ce traumatisme de l'environnement extérieur. Peut-être c'est lui qui est Israël. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, on ne peut pas ne pas être admiratif, quelles que soient les plumes qu'on a laissées, si vous voulez, de voir ces communautés traverser 2000 ans d'histoire chrétienne et tenir le coup. Elles ont dû se créer des anticorps. Pour ça, et il y a un style de carapace de protection, si j'ose dire, par rapport à la foi chrétienne, qui finalement a distillé un athéisme juif qui est venu de là. Vous voulez sinon expliquer le mécanisme. C'est-à-dire, si croire en Dieu, ça risque d'être croire en Dieu comme les chrétiens, je préfère être athée. Voilà, grosso modo, si vous voulez, très schématiquement, l'origine de l'athéisme ashkénaze. Est-ce que c'est clair ? Très souvent, les philosophes juifs ashkénazes, je ne parle pas des rabbins, bien sûr, c'est notre problème, mais les philosophes juifs, les penseurs juifs ashkénazes, ont une espèce de coquetterie d'athéisme. Vous lisez ça dans tous leurs livres contemporains, dès qu'ils sont sortis des ghettos, coquetterie d'athéisme qui s'explique aussi comme ça. Parce qu'il faut surtout se démarquer de la foi, or la foi est chrétienne. Et la foi chrétienne, c'est tellement idolâtre qu'il vaut mieux parler comme un athée. J'essaie en train de plaider pour ces athées-là, mais vous comprenez un peu de quoi il faut parler. Bon, alors ceci dévoile quand même que l'athéisme en milieu chrétien pour les juifs, c'est parfois aussi grave que la conversion au christianisme, parce que c'est l'envers de la médaille sainte. Vous comprenez ? Ça veut dire que leur problème, c'était celui-là. Mais, je vous dis, j'ai eu souvent des conversations, je ne citerai pas des noms, mais enfin, j'ai toujours été frappé par ça dans mes premières rencontres avec les Ashkenazis, ils arrivaient de l'autre côté du monde. Dans cette phrase-là, ah, si tu crois qu'il faut qu'on croie à ça, on va finir par croire à la Sainte Vierge. Alors, vous voyez quel était leur anticorps. Eh bien, ça finalement déjudaïsait énormément l'intellectuel juif, cet environnement-là et la problématique qui représente. Je crois que le modèle de ce que j'essaye de cerner ici, ça restera Kafka. Le labyrinthe d'identité, qui suis-je ? Et vous n'aurez jamais de Kafka sfaradi, ça n'existe pas. Vous comprenez ? Sauf, oui, vous pouvez en avoir maintenant que les sfaradi ont la problématique ashkénaze. Alors vous aurez des gens d'origine sfarade. Mais je ne sais pas qui je vais vous citer, tous. Bon, en tout cas, vous avez une idée. Mais qu'à lire tous les livres qui s'écrivent aujourd'hui en France ou ailleurs, finalement c'est cette problématique-là dont ils vont hésiter. Alors, avec le style athée, mais ça revient au même. Je lis une revue comme l'art. On ne peut même pas être frappé de cela. Le juif qui est préoccupé d'être assuré que ce n'est pas l'autre qui est le véritable Israël. Vous voyez cette obsession-là. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, comme si c'était pas l'autre, c'était pas fini. Non, c'est pas fini. L'environnement a encore cette. Alors, ça, c'est la problématique d'identité des Haïtiens. Mais très tôt, la tradition a diagnostiqué cela. Ça se passe à Rome. Parce que la rivalité avec de l'islam vis-à-vis d'Israël ne concerne pas l'identité théologique. C'est-à-dire, le musulman, Ismaël, sait très bien que c'est Israël qui est Israël. Hein? Mais il lui refuse une place sur terre. Il lui refuse l'autonomie politique. Mais il sait très bien que le ciel lui appartient. Au ciel, il prie le Dieu d'Israël, c'est sûr. Sur terre, il n'y a pas de place pour Israël. Les chrétiens, c'est l'inverse. On vous aménagera une place sur terre. Mais au ciel, on n'est pas interdit de séjour. Okay? Alors, finalement, c'est clair. Les chrétiens ont pris le ciel, les musulmans ont pris la terre. Et comme je vous dis souvent, il nous est resté l'horizon. Et je crois effectivement que ça explique beaucoup du schisme juif de l'exil. Le juif de l'exil a toujours été un être à l'horizontale, je ne sais pas comment vous dire. À l'horizon. Et c'est aussi une dimension de survie. Non, mais il y a une expérience que nous sommes peut-être le seul peuple au monde à avoir vécu. De façon partielle de bohémiens, mais le fait d'avoir été ce peuple de l'horizon, le peuple du voyage. Ça a notablement enrichi l'expérience de la nuit. Mais ce n'est pas notre condition naturelle. Alors finalement, un jour, on a décidé de revenir sous le ciel de notre terre, et pour ça il fallait arriver sur la terre de notre ciel, et puis le monde entier se demande ce qui arrive. Et c'est du ciel, et c'est de la terre. Cette chose inouïe, comment ces gens-là rentrent chez eux, car là pas. Vous avez compris, vous avez... Bien. Il ne reste pas trop de temps, mais je vais quand même arriver à un point d'éclairage. Alors vous ne suivrez pas par vous-même ce texte, sur ces deux registres là. Et on arrive à la stratégie de prière de Jacob. Sa stratégie de guerre était que lorsqu'il entend, verset 7 par exemple, lorsqu'il entend les envoyés qu'il avait envoyés lui dire, eh bien voilà ton frère Ésaü, comme tu as dit ton frère, t'attend avec une armée. Alors, verset 8, Vaïra Yaakov Meod, prenons verset 8, Vaïra Yaakov Meod, et Jacob eut très peur, Vaïtserlo, il fut dans l'angoisse, Vaïachat et Aramachorito, et il divisa le peuple qu'il avait avec lui, Vetason, Vetabakar, Vergemali, Mishemachat, ainsi que tous les troupeaux, en deux camps. Vaïomere, il dit, Imiavo, Esav et la Machanea Achat, Vilkaou, si Ésaü vient contre le premier des deux camps et le frappe, le deuxième camp sera rescapé. Bon. Vous avez tout à fait le plaidoyer des juifs de diaspora. Ben, si jamais ça va mal en Israël, on est là-bas la réserve. C'est tout à fait ça. Nous avons d'ailleurs un ouvrage qui nous explique c'est ce que disaient les juifs de Babel des juifs d'Israël. Que si l'ennemi vient détruire Israël, eh ben, les juifs de Babel seront derrière Mahamé Hachemi, seront plaidards. Plaidards, ça veut dire le même. Alors là, Jacob prie. Eloke avi Abraham, Dieu de mon père Abraham, Eloke avi Israël, et Dieu de mon père Israël, Hachem, à Omer Elai, qui me dit, qui m'avait dit dans la fameuse vision à Bethel, Shuv l'Aftecha mon Aftecha v'etiva imar, reviens à ton pays, à ta patrie. Et, vous voyez, mon Aftecha, je ne pourrais plus dire matrie que patrie, mais enfin, c'est à ta patrie. Réti Vaïma, et je ferai du bien, presque le programme d'un chavière de la Alia. Choule Artecha, Ulmon Artecha, Vetenecha Ataot. Verset 11, Katonti, Nikola Hassadim, Nikola Emet. Je suis trop petit, vous entendez, en mérite, de tout, les grâces et la vérité à ce Asita et Abdecha que tu as fait avec ton serviteur, qui de Makli Avarti et d'ailleurs de Nandé. Car c'est avec mon bâton que j'ai traversé ce Jourdain, Verata Aïti Mishne Machano. Et maintenant je suis, bien entendu, tellement riche que j'ai deux camps. Regardez l'humour noir de Jacob. Pourquoi il a deux camps? Parce qu'il a dû séparer sa famille en deux camps pour essayer d'avoir des rescapés. Et maintenant il rend grâce à Dieu en disant, je sais que tu m'as protégé, puisque quand j'ai quitté le Jourdain pour m'enfuir, j'avais que mon bâton. Et voilà, je reviens maintenant avec deux camps. Donc je sais que ta promesse s'accomplit. Mais vous avez vu la dimension du monde qu'il y a là-dedans. Okay. Alors, Atulenina Miyadachim Yadaïta. Sauve-moi de la main de mon frère. Il faudrait interpréter avec le Midrash de celui que j'ai cru être mon frère, Miyad Esav, de la main des Aïs. Qui a réanoci autour, car j'ai peur de lui. Peignavo Veikani, de peur qu'il ne vienne et qu'il me frappe. Et Malbanim, la mère sur les enfants, comme vous savez, comme ils savent faire dans les jardins d'enfants. Bon. Et alors, là, ici, je voulais vous donner un enseignement. Un peu important. Ces deux camps, assez importants pour notre vie, ces deux camps-là, on va apprendre, c'est les enfants de Rachel, les enfants de Léa d'abord, les descendants de Léa, et les enfants de Léa, le premier camp, et les enfants de Rachel, le deuxième camp. Voilà comment Jacob a divisé son camp en deux. Et encore une fois, on retiendra, c'est d'abord purement et simplement une stratégie militaire. Okay. Mais voilà la division comme elle se fait. Les enfants de Rachel, les enfants de Léa, les enfants de Rachel. On va revenir un peu en arrière et vous allez prendre le dernier verset de la sidra précédente, c'est-à-dire le verset 3 du chapitre 32. Prenez déjà le verset 2, si vous voulez, du chapitre 32, juste à la fin de la paracha précédente. Bien, c'est pas très loin. Non. Voilà, lorsque, après avoir conclu un pacte avec Laban, Et Jacob va prendre le chemin, verset 2, « Veyakov ala pedarko » et Jacob alla sur son chemin. « Veyakov ala pedarko » le rencontrait, et comme on rencontre quelqu'un subitement, une goa, les anges de Dieu. « Veyomer Yaakov kasher ra'am » et Jacob dit quand il les a vus, « Mahane elokim ze » ça c'est un camp de Dieu, « Veyikrashem amakom ahu mahanaï » et il appela le nom de cet endroit, Mahanaïm, le camp au duel. Mahane, Mahanaïm, les camps au duel. Et vous voyez donc, dans le ciel il y avait deux camps, et sur terre il y avait deux camps. Okay. Alors je vais essayer de vous montrer le parallèle entre ces deux camps. Qui sont ces anges-là, donc que Jacob perçoit qu'il y a deux sortes. Que l'on va suivre sur le verset 2. Ben, il dit au beau Malaché Loki. Malaché Loki. Et le rencontrèrent les anges de Dieu. Yes. Oui. Malachim chez les Israël, Baru Likrato, Lavoto, Lav. Les anges, alors qu'ils reviennent dans le pays d'Israël, les anges, disons, tutélaires des Rets Israël, vont à sa rencontre. Mahanaïm, verset 3, je suis dans Rachid, Shte Mahanot, deux camps, chez Chutzelare, chez Bawaïmo Atkam, et chez les Rets Israël, chez Baru Likrato. Les anges de Chutzelare, qui l'ont accompagné jusqu'à la frontière, donc on sait où est la frontière, enfin les anges savent. Et les anges d'Eret Israël qui viennent à sa rencontre. C'est-à-dire, lorsque Jacob rentre de l'exil en Eret Israël, à ce moment-là, il y a deux camps d'anges qui se rencontrent. Les Malachim d'Eret Israël et les Malachim de Chutzalaret, c'est clair? Et voilà que le même modèle, nous voyons d'autre part, pour d'autres raisons apparemment aucun rapport, hein, Jacob est, qui est obligé de diviser son propre camp en deux camps. En haut, c'est Mahanaïm, la chambre Zahar, quoi que c'est le duel, c'est ni féminin ni masculin, hein. Et puis en bas, c'est Mahanot, la chaune Nekev. La différence, d'après le Zohar, c'est que Mahanaïm, bien qu'il y ait deux camps, là-haut, les anges sont unis. Mais en bas, c'est vraiment des okay? Mahanaïm, Mahanot. Or, on finira par diagnostiquer que cette typologie des enfants de Léa, c'est la descendance de Jacob en Eretz Israël. Alors que la typologie des enfants de Rachel, c'est la descendance de Jacob en dehors d'Eretz Israël. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Rachel est fils de Léa, alors que les fils de Rachel, Choutzlar, Yosef, Binyamin. C'est quand Binyamin devient sioniste, si j'ose dire, que le Mashiach arrive. Hein? Pas forcément parce que c'est le nom de Hertel, mais ça c'est un coïncident. Hein? Mais non, c'est vraiment une parenthèse. Binyamin joue un très grand rôle dans le temps messianique du retour de l'Église. Peut-être que c'est d'ailleurs dans Reichslach, donc peut-être quand même vous me rappellerez la semaine prochaine d'en parler un peu. La naissance de Binyamin dans l'histoire de la famille Jacob. Qu'est-ce que ça représente dans l'histoire messianique de la fin de l'Église? Et effectivement, nous savons que Rachel n'est pas enterrée dans la caverne de Marcella. C'est vrai qu'elle a été enterrée à Bethléem, et le texte dit très clairement sur le chemin de l'Église. Et la Midrash dit elle est enterrée sur le chemin de l'Église. Pour prier pour ses enfants dans l'église. J'avais dit déjà les années précédentes que c'est peut-être la raison pour laquelle les juifs de l'église souhaiteraient qu'on rende Bethléem aux Arabes, de telle sorte que Rachel continue à prier pour eux, parce que maintenant Rachel est en Eretz Israël. Ils n'ont pas de protection, il n'y a plus de protection pour les juifs de la Galilée. Et la. Justement, je n'ai pas d'accord, bien sûr. Mais je dis les. Non seulement Joseph, mais Binyamin. Lorsque Binyamin revient, alors c'est la fin de l'Église. Et c'est vraiment un moment d'identité très important. Peut-être qu'il nous aura temps, je vais en parler encore déjà aujourd'hui. Et nous allons reprendre donc, maintenant qu'il y a, c'est clair, cette dualité des deux camps nous renvoie à la dualité qui est une des coupures. Les fractures d'identité du peuple de Jacob instaurées dans son histoire en tant que nation, cette rupture entre deux manières radicalement d'être fils de Jacob, l'une qui est les enfants de Léa avec Israël, l'autre les enfants de Rachel, la Galoute. Est-ce que c'est clair? La société d'Israël a plusieurs lignes de fractures possibles, mais c'est une des principales. Et c'est peut-être, puisque cette typologie nous a donné sur cette ligne-là, c'est peut-être la plus grave. Je vous signale très rapidement les deux autres lignes de fracture qui correspondent d'ailleurs aux trois dimensions d'identité, ensemble aux trois dimensions d'identité d'Israël. Au niveau en Israël, la fracture est entre les tribus. Bon, de notre temps, nous vivons l'affrontement Sfarad-Ashkenaz, mais c'est très compliqué. Hein. Il y a 12 tribus en Israël. C'est pas simplement deux tribus, les Sfaradim et les Ashkenaz. Les Sfaradim, ça se divise en plusieurs tribus, les Ashkenazim en autant, et c'est très compliqué. Mais il y a une ligne de fracture possible au niveau peuple, par les tribus. Il y a d'autre part la dimension Torah d'Israël, et une ligne de fracture au niveau Torah. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre ceux qui sont pour. Ils ne sont pas contre la Torah, ils sont contre ceux qui sont pour. Et la troisième ligne de fracture, qui est peut-être la plus grave, c'est Eretz Israël ou la diaspora. Vous comprenez? Bon, avant d'aller plus loin, quelle est ta question? C'est à cause de Yaakov Alach Vedarko. C'est-à-dire quand quelqu'un juif s'en va en voyage, on lui souhaite Yaakov Alach Vedarko. Et qu'il rencontre des anges, et pas des... Il n'y a pas de Malaché Habala. Enfin, qui rencontre une protection, une providence. Le voyage est toujours dangereux. Et pas seulement. Je veux dire, bon, les juifs ont vécu cela. Les juifs, ont, et c'est très profond dans l'inconscient juif. Là, je ne sais pas si on peut dire la phobie, mais le traumatisme des voyages. Je ne sais pas si vous avez vu le quai de la gare de l'Est, le jour des vacances, là où il y a les colonies de vacances juives. C'est spécial. Et on voit les employés qui regardent ça. Mais oui, bon, au pôle Nord, oui. Vous comprenez? Il y a une espèce de souvenir atavique. Le fait d'aller en voyage, c'est terrible. Bon, mais beaucoup plus large que ça. Le voyage est dangereux. Il y a toutes les mauvaises rencontres qu'on peut faire dans les aéroports. Regarde, ça veut dire qu'il y a Beshiptecha Bebetecha ou Blechtecha Baderech. Blechtecha Baderech, c'est dangereux. Lorsqu'on va de quelque part à quelque part entre, c'est là, à l'Arson, la diagonale, je sais pas comment on dit, c'est là qu'est le danger. Or, le juif a été cet homme des diagonales, enfin des travers. Donc, on cite ce verset via Akov Alar Vedarko. Bien. Voilà donc l'identification. Alors je vais reprendre d'abord le plaidoyer de Jacob. Et on va se demander mais pourquoi il a peur. Puisque précisément, il sait que Dieu est providence pour lui. Mais rattachez ça au problème général. Il a peur parce que peut-être Jacob a un dossier qu'il peut plaider contre lui. Lequel est le dossier? Aime le monde. Enfin, je regrette de ne pas avoir plus de temps. Enfin, on se revoit l'année prochaine sur ce sujet. D'abord, ceci, c'est que, d'après le Pshat, nous allons lire comme ça. La prière de Jacob commence au verset 10. Bien, Yud. Vayomer Yaakov, et Jacob dit Eloke Abi Abraham, Eloke Abi Yitzhak, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Hachem, et maintenant il se rappelle qu'il avait des parents à Hebron et à Beersheba. Hachem a omer elai fur leartzechol molatecha vekivaima katonti mikol hachasadim mikol haemet asher atit et aldecha. Tu le prends là, qui veut makli avant qu'il t'aille redaser. C'est le fait que Jacob commence par dire la louange de Dieu, le remerciement. Et quand je suis parti, j'avais un bâton seulement, le bâton du différent, si j'ose dire. Pas si j'ose dire, c'est ça. Et maintenant, je suis riche de deux camps, là je suis riche. Alors, puisque déjà tu m'as donné la preuve que vraiment tu me protèges, alors voilà, j'ai encore une protection à te demander. Sauve-moi de la main de mon frère. J'ai peur qu'il me détruise. Et là, les deux versets sont vraiment séparés. Alors, indépendamment de ce chat, je vais vous donner une autre lecture en reliant tout simplement la fin du verset 11 et le début du verset 12. Verata, haïti, vishne, machanot, atilenina. Ça déjà, ça suffit pour montrer l'inquiétude de Jacob. Le fait qu'il y ait division dans Jacob, de ça sauve-moi. C'est une lecture brache. Et il n'y a pas de doute que c'est le diagnostic de la société juive. Dès que se pose un problème, quelconque, important, la société juive se divise en deux. Alors sauve-moi. C'est-à-dire cette division fait que Ésaü peut être vainqueur.
Vous avez compris le problème?
Et je crois que dans la société israélienne, en tant que société juive, c'est au paroxysme. Ça ne peut pas fonctionner parce que, voilà, dès que il faut se compter, alors il y en a 59-61.
Vous voyez la Knesset.
Et finalement, il y a ces trois lignes de fracture. Mais je pense, pour revenir au thème du texte, la plus dangereuse, c'est bien cette ligne de fracture entre Israël et diaspora. Cette division qui met en question, aux yeux de l'ange d'Ésaü, finalement, le droit du peuple juif à revenir sur sa terre. Parce que Ésaü a toujours plaidé, mais c'est pas vrai, t'es pas d'ici, tu es de là-bas. Vous comprenez? Et il y a une statistique. Qu'est-ce que vous dites, vous, les juifs, que c'est votre terre? Il y a 4/5 de votre peuple qui se trouve bien ailleurs. Il est compris. Voilà, il suffit de le formuler de cette manière. Et on voit bien comment les événements que nous vivons, lorsque ça se dévoile au niveau des événements, nous permettent de comprendre le texte et la situation. Mieux, je veux dire, mieux le texte. Or, mais il y a quand même plus. C'est le fait que Jacob a, dans son plaidoyer même, indique quelle est sa ligne de faiblesse. Revenons donc au verset 8. C'est non, verset 5. Je comprends toujours rien. Verset 5. Et... Voilà. Voilà le message que Jacob envoie à Ésaü. J'étais chez Laban, j'ai séjourné chez Laban, Laban garti vaecha avata, et j'ai tardé jusqu'à présent. Bah, il dit, sur Vahamor, son verre de Chitra, et j'ai eu tout ce que j'ai eu, tout ce que je ramène. Ça, nous avons étudié une fois ce que Rachid dit à ce sujet. Ne crois pas que ça me vient de la bénédiction que tu prétends que j'ai pris, que je t'ai pris. Ça vient de mon travail, ça vient initialement. Alors revenons en tout cas à Im Laban garti vaecha avata. Et c'est ça qui explique cette grande terreur du verset 8 auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. J'ai séjourné chez la barre et j'ai tardé jusqu'à présent. Nous allons lire tout à l'heure. Parce que là encore, nous avons une information que nous connaissons déjà. Premièrement, que Jacob avait séjourné chez la barre, ça Ésaü le sait. On l'avait appris la semaine dernière, vous rappelez. Il savait que ses parents l'avaient envoyé chez la barre pour prendre femme, pas dans le déclin. Il le savait. Et il sait très bien qu'il a tardé jusqu'à présent. Et avec une patience. Donc, j'ose dire, Ésaü l'attendait. Il sait qu'il arrive. Il est prêt. Si, peut-être que, d'ailleurs, si Jacob était revenu plus tôt, ça c'est le fond du problème. La légion jordanienne n'aurait pas été sur pied. Enfin, je veux dire, celle d'Ésaü. L'armée d'Ésaü. Effectivement, imaginez que l'Égypte serait revenue 2 siècles avant. Eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu de Ligue arabe à ce moment-là. Enfin, c'est un autre problème, mais c'est le problème de Jacob et Ésaü. Mais là, ils ont Rachid. Il n'a pas de Garti. Rachid sur le verset 5. Garti. L'on a assisti Sardé Rachid. En réalité, cette information véhicule quelque chose d'important, un plaidoyer. Il n'a pas de Garti. J'ai séjourné chez la vanne. Ce verbe, Garti, c'est un verbe que vous connaissez, la cour. Ça veut dire séjourné comme étranger. Mais là. Ne crois pas, dit le Midrash que c'est Rashi, ne crois pas que je suis devenu prince important. L'on a ainsi dit Sarve Hashoud et la guerre, mais je suis resté Metek, je ne sais pas comment vous dites. Là, c'est d'accord que je parle à Ésaü. Là, ça veut dire, il y a un plaidoyer, j'ai jamais oublié que j'étais l'élève d'Israël. Je ne me suis pas pris pour un Lévanien, là-bas, comment on dit resté. Je ne vais pas dire libanais, non. Bon, je ne me suis pas pris pour... vous avez compris. En Chakedai, l'isnoti. Et par conséquent, tu n'as pas à me haïr. Al-Brachot, Avichach, Al-Brachani. À cause des bénédictions de ton père, que ton père m'a donné. Et parce qu'il m'avait dit, dans ces bénédictions-là, Hevegevir le Avicha. Sois un noble par rapport à ton frère. Gevir, ce n'est pas un noble. Patron, écoutez, je veux dire, étymologiquement, le mot de baron vient de Dubourg. Alors, c'est dans le sens de baron, dans le sens de l'ancien français. Gevir, l'arrière. Lui, j'ai pas été Gevir, j'ai été Gev. C'est Arénonikayuma, vie.
puisque voilà, ça ne s'est pas réalisé pour moi. Je me rappelle au Talmud Torah en Afrique du Nord, on posait toujours la question, le Shéhar et l'Onika Ima Bi est trop dans Rashi. Alors je m'appelle un rabbin de Constantinople, il y a dit qu'il expliquait ça. Il dit, mon père m'a béni avec la mission de toi guérir. Mais je n'ai été que guère du Rashi. Bi, l'Onika Ima, le Bi de guérir, ça ne s'est pas réalisé. Je reviens au problème. Et alors, où est-ce que nous sommes ? À Constantine. Oui, je reviens. D'abord, Rachel. Oui, première explication de Rashi, le Midrash aussi Rashi, j'ai séjourné chez Laban, ça veut dire je suis guerre. Là-bas, j'étais guerre. Alors ne me jalouse pas. C'est-à-dire, ni mon histoire, tu verras que j'étais enfermé dans des ghettos, métèques pendant 2000 ans, etc. Okay? Et ça, c'est le plaidoyer de l'agent juif à l'ONU. Vous voyez ? Vous rappelez de tout ça ? Tout à fait ça. Comment ? Vous n'êtes pas rentré chez nous, mais vous ne savez pas, nous avons été voyageurs pendant 2000 ans. Okay? D'abord, Rachel, Garti de Gematria Tariak. Deuxième explication, c'est le nom de Garti à pour valeur numérique, Tariak. C'est-à-dire les petits français de nous. Et oui, non seulement la valeur numérique, mais c'est la même. Tariac, c'est le cas. Une allusion. Non seulement, je ne suis pas devenu seigneur de l'endroit, je ne sais pas comment dire, lord israélien, allons, vous savez ce que je veux dire, ou le baron de refuge. Mais, Tariac, Mizot, Chamarti, j'ai gardé les 613 commandements, Keloma, Imlaban, Arachar, Garki. Bien que c'était chez Laban le méchant, le Rafa, que j'ai habité, que j'ai séjourné, Tariag Mizvot Shamarti, je les ai gardés, les 613 commandements, Velo Lamati Mima'a Savaraï, et je n'ai pas appris de ces mauvaises conduites. Dans les dimensions de ce midrash que cite Rashi, il y a quelque chose de très important. Parce que je vais vous l'expliquer directement comme le Benishra l'a expliqué. Et là se dévoile un plaidoyer de Jacob qui va aller jusqu'au moment de la lutte contre l'ange, où l'ange est obligé de lui reconnaître le nom d'Israël. Et le Ben Israël nous dit, Yaakov, qui est le principe du peuple d'Israël, hein, le peuple, doit passer au niveau d'Israël, d'ailleurs on a fait une chose tout à l'heure dans mon question, au niveau d'Israël, il doit modifier le nom d'Israël. Mais pour ça, il faut qu'il mérite deux autres dimensions. Or, rappelez-vous, ici, cette dimension guerre, la première explication des sacrifices guerre, hein, ça veut dire qu'il a gardé son identification par Eretz Israël. Or, finalement, Eretz Israël sera donné au peuple d'Israël par le roi David. Je veux dire, c'est au nom du roi David que cette souveraineté sur Eretz Israël sera enfin obtenue. David. Je prépare quelque chose d'accord. Non seulement je fais partie des Bénis Israël, mais j'ai gardé la Torah. Et la Torah, c'est mon chef qui l'a gardé. Alors, c'est une Bénis Israël. D'accord, c'est le peuple, hein. David, c'est la tête, Eretz. Et mon chef, c'est la Torah. Et c'est l'identité qui fait que Jacob est Bénis Israël. Âme Israël, Eretz Israël, Torah Israël. C'est clair, c'est simple. Okay. Et le Bénis Israël, nous le montre avec un procédé kabbaliste habituel qui est celui de la Gamatria, mais dans ce cas-là, vous allez comprendre par vous-même qu'il ne peut pas y avoir de coïncidence de ce genre, ce n'est pas possible. Prenez la valeur numérique de Yaakov, ça fait 182. 182. Moshe, David, d'accord. Et puis Moshe, 345. Or, ça fait. Je ne sais pas, combien de temps ? 542. C'est la gamme de l'Israël. C'est-à-dire, Yaakov, plus Moshe, plus David, ça fait 10. Super. Alors, non seulement, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que 2 et 2, ça fait 4. Non seulement, c'est comme ça, mais c'est ce que dit le Midrash de Rashi. Yaakov dit à Esaü, à nous deux, qui est Israël. Alors, il lui dit, quelles que soient tes prétentions, eh bien, premièrement, je suis resté guerre, deuxièmement, Tariag Mitzvot, ça veut dire, moi, Jacob, plus David, plus Moshe, c'est moi, Israël. C'est clair ? Bon, ça nous est clair aussi, j'ai menti là. Il faut qu'il y ait Israël, eh bien, il faut qu'il y ait Am Israël, Eretz Israël, Torah.
Bon. Alors ça c'est, si vous voulez, le point de force de Jacob devenant Israël. Mais quelle était son inquiétude? Elle est dans le même verset. Une avant-garde va échar à l'âge. Et j'ai tardé jusqu'à présent. Il avoue que, quels que soient les mérites dont il peut se prévaloir, quant à la promesse que Dieu lui avait faite au moment où il est parti, il y a une faille. Peut-être que le mérite ne va pas lui être imputé. Pourquoi? Parce qu'il a tardé. Et ça, vous rattachez à ce que nous avons appris, peut-être, c'est dans la nuit dernière, en tout cas dans la paracha précédente. La Gemara dit, c'est dans la Gemara de Sanhedrin, mais en parallèle, ces deux versets en montrant qu'il y a apparemment une contradiction. Je vais vous donner d'ailleurs la référence que j'ai sélégée, elle n'est pas dans Sanhedrin, elle est dans Brachot. Mais Sanhedrin, c'est la page 68b. Et dans Brachot, c'est la page 4a. Alors, je vous la dis ici. Vaïra Yaakov. Et Jacob eut très peur. Rabbi Yaakov Baridi Rami. Rabbi Yaakov Baridi met en évidence une contradiction entre deux versets, contradiction apparente. Il y a, dans la paracha de Vaïr, c'est la semaine dernière, Dieu dit à Jacob, tu peux partir. Je suis avec toi et je te préserverai là où tu iras. Et ici, quand il revient, il a eu très peur. Réponse, Shema Yikromach. De peur que la faute est entraînée. Le fait que le mérite ne joue pas. C'est clair, chez Maïro Marché. Quelle faute? Ben, c'est là que cette faute se dévoile. C'est-à-dire que la consigne était de partir et de revenir tout de suite, de revenir dès que c'est possible, pour atténuer le profit. Et voilà que Jacob lui-même va s'avouer cela. Va échar à l'attard. Ça, c'est un mot précis, un mot terrible, un mot précis. C'est Jacob qui dit j'ai tardé. Il aurait pu envoyer une toute autre expression et dire, par exemple, je ne sais pas quoi, mais j'ai pas pu venir avant. Okay. Il dit non, j'ai tardé. Est-ce que c'est bien? On tarde toujours par rapport à une certaine date. Okay. C'est bien évident. Alors, je crois que ça, c'est extrêmement éclairant. C'est-à-dire cette peur de Jacob dans cette rencontre, elle vient de ce retard, et c'est très lié avec ces mahanot, c'est-à-dire avec ces deux...